Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Je vous remercie de participer à notre conférence téléphonique qui concerne donc l'activité du troisième trimestre 2023. Le chiffre d'affaires, comme vous l'avez probablement lu sur le communiqué que nous avons diffusé il y a quelques minutes, s'est donc établi à 3,37,2 millions d'euros en hausse de 9,1% par rapport à l'an passé. Il était de 2,783,2 millions d'euros. En France, l'activité a progressé de 9,8% et hors de France de 8,8%. À périmètre échange constant, l'activité du groupe a progressé de 10,1%, soit plus 9,8% en France et plus 10,3% hors de France. Au troisième trimestre, le rythme de croissance a encore ralenti, sans surprise, mais le ralentissement est plus marqué que ce à quoi nous nous attendions à certains endroits et nous y reviendrons. Aussi, même si elle reste globalement satisfaisante, la croissance est en ligne avec notre estimation plutôt basse, mais avec notre estimation. À données constantes, la croissance est de 7,6% ce trimestre, 10,5% en France et 6,3% hors de France. Le trimestre a été pénalisé par un effet de base défavorable et 0,9 jours ouvrés de moins qu'en 2022. Retraité de l'effet jours ouvrés, la croissance aurait été de 9% ce trimestre. Croissance donc qui reste satisfaisante. À données courantes, la croissance de l'activité est de 3,3%, plus 10,5 en France et plus 0,4 hors de France. Je vous rappelle que les données courantes tiennent compte du chiffre d'affaires de la société Cyprime que nous avions vendu en fin 2022, raison pour laquelle nécessairement la croissance de l'activité à données courantes est inférieure à la croissance de l'activité à données constantes. L'effet jour ouvré a également une incidence sur notre activité cumulée à fin Q3 2023. Et a donc pénalisé la croissance en year to date cette fois-ci de 0,7%. Notre taux d'activité au troisième trimestre a été de 91,7%. Il était de 92,7% au troisième trimestre 2022. En données cumulées, à fin Q3, il s'établit à 91,7% également, versus 92,7% également à fin Q3 22, soit un recul de 1%. Recul qui est tout à fait normal puisque notre taux d'activité, comme vous le savez, est revenu à son niveau normatif cette année. Les effectifs du groupe ont peu progressé ce trimestre. Pour mémoire, après la cession de Cyprime fin 2022, le groupe comptait 53 650 collaborateurs, dont 47 240 ingénieurs. Fin juin, nous étions 57 400, dont 50 550 ingénieurs. Et fin septembre, nous sommes 57 600, dont 50 650 ingénieurs. Répartis comme suit, 11 620 en France et 39 030 hors de France. À fin septembre, les effectifs ingénieurs ont donc progressé de 3 410 personnes, dont 2 657 de façon organique, 520 en France et 2 137 hors de France. Et les acquisitions ont représenté 750 ingénieurs. Au troisième trimestre, les effectifs n'auront donc progressé que de 30 ingénieurs, 70 en France et un recul de 40 hors de France, en partie du fait d'une baisse assez importante des effectifs en juillet et août, plus importante qu'à l'accoutumée, que le mois de septembre n'a pas pu complètement compenser. À l'international, la baisse des effectifs concerne principalement l'Allemagne, où on fait moins 100, et l'Inde, où on fait moins 80, mais pour des activités locales, alors que dans les autres régions à l'international, les effectifs soit se stabilisent, soit croissent légèrement dans les autres géographies. Alors justement, si on analyse l'activité de ce trimestre par principales zones géographiques, vous verrez que le ralentissement, n'est pas général. Notamment la France, l'Europe du Sud et le Benelux résistent bien. En France, malgré un effet de base défavorable et 2 jours ouvrés de moins que l'an passé, l'activité a progressé de près de 10% à fin septembre 2023 et de 10,5% au troisième trimestre, soit 12,3% si on retraite de l'effet JO, jour ouvré. L'activité restait dynamique dans l'automobile, l'aéronautique civile, la défense, où elle progresse encore, et sécurité. A contrario, on rencontre quelques difficultés, comme vous le savez, dans le secteur bancaire et plus généralement dans le secteur IT, parce que le secteur du retail en France est aussi légèrement touché par le ralentissement d'activité qui a été plus marqué que ce qu'on avait anticipé. En zone ibérique, Espagne-Portugal, l'activité résiste bien, elle a progressé de 16%. Tous les secteurs sont en croissance, même la banque finance. En Allemagne, le fort ralentissement constaté au second trimestre s'est confirmé au troisième. Troisième trimestre pénalisé qui plus est par un jour ouvré de moins que l'an passé. La croissance en Allemagne en year to date est de 8,4%, de 1,4% seulement au Q3, et elle aurait été de 2,7% à jour ouvré constant au troisième trimestre. Donc en baisse néanmoins. Le secteur automobile a fortement ralenti, particulièrement chez les équipementiers où les budgets sont même en baisse depuis la rentrée. La décélération de l'activité est bien moindre dans l'aéronautique, qui reste en croissance forte puisqu'on est à plus 20% en year to date, les deux secteurs représentant 70% du chiffre d'affaires. Au UK, la croissance est de 12,5% en year to date. Elle reste satisfaisante, même si on affiche une croissance de 8% au titre du troisième trimestre. Je tiens à souligner que nous avons acquis une société au UK l'an dernier qui comprend 850 consultants, la société Methods, qui représente maintenant 40% de l'activité de la zone géographique, société dont la croissance est quasi nulle, ce qui explique le ralentissement apparent du taux de croissance au UK. Sur le périmètre historique, donc sans tenir compte de cette société, la croissance se maintient toujours à plus de 15%. En Italie, une croissance de 24%, toujours robuste. Tous les secteurs sont en progression. Finance, tertiaire, télécom, automobile, défense. Au Benelux, une croissance qui se maintient également à 15%, qui accélère en Belgique, notamment dans le domaine de l'auto et des sciences de la vie, mais qui ralentit aux Pays-Bas dans le domaine des semi-conducteurs et l'électronique. En Scandinavie, le scénario est à peu près le même qu'en Allemagne. Une activité qui a fortement ralenti au troisième trimestre dans les secteurs auto et poids lourds, notamment en Suède, dans une moindre mesure dans le secteur des biens d'équipement en Finlande, d'où une croissance faible ce trimestre et de 6% en year to date. En Europe de l'Est, notre croissance est restée satisfaisante puisque de 22% à fin Q3 et de 14% au troisième trimestre. La Pologne, qui représente les deux tiers de la zone, a crû de plus de 25%. La Roumanie a crû de 17% grâce à l'automobile et au secteur finance tertiaire. En Amérique du Nord, maintenant, une activité qui a crû de 5%, mais un ralentissement assez net au troisième trimestre, puisque la croissance n'est plus que de 1,3%. Aux US, le ralentissement est dû notamment aux comptes automobiles et à des fins de projet dans le secteur oil and gas, dont nous avions déjà parlé à la fin du premier semestre. Et au Canada, le ralentissement est également dû au secteur banque finance, qui représente à peu près 40% du chiffre d'affaires du pays. En zone Asie-Pacifique, notre croissance publiée est de 3,6% à fin Q3 et elle est nulle au troisième trimestre. Comme je vous l'avais expliqué lors de la publication précédente, il faut retraiter les données de la zone Asie-Pacifique du fort recul de l'activité à Singapour en raison de fin de projet importants dans le domaine de l'oil and gas, notamment. Singapour, qui représentait 12% de la zone APAC en 2022, ne représente plus que 3,5% de la zone cette année, en recul de 70%. Donc, retraité de Singapour, la croissance de la zone APAC serait de 14% en données cumulées et de 11% sur Q3, une croissance qui donc reste satisfaisante et qui, quand on considère les pays principaux qui composent la zone, s'analyse comme suit. La Chine, 35% de la zone, a ralenti à un peu plus de 5% du fait d'une décroissance dans le secteur des télécoms, décroissance assez sensible, alors que ça représente 30% du chiffre d'affaires du pays, et également dans le domaine des semis et de l'électronique. A contrario, l'automobile, qui représente aussi 30% du CA local, est toujours en croissance de plus de 30%. L'Inde, 30% de la zone, continue à croître de 15% grâce aux côtes auto, industrie et tertiaire. Le Japon, 11% de la zone, a accéléré sa croissance à plus de 30% grâce au secteur tertiaire et électronique. Et enfin, la Corée, 10% de la zone, croît de plus de 25% grâce aux comptes auto et électronique. Donc, vous voyez que la croissance du groupe est assez hétérogène finalement, quand on considère les zones géographiques tout ensemble, puisque certaines zones marquent un ralentissement net, les trois principalement, Allemagne, Scandinavie et zone Amérique du Nord, quand toutes les autres zones géographiques continuent de progresser de façon assez sensible. Quand on regarde maintenant l'analyse par secteur d'activité, l'automobile progresse de 15%. Tous les constructeurs sont en progression assez sensible au global de 22%, à l'exception de GM aux US et de Volvo Cars en Suède. Le ralentissement de l'activité est en revanche marqué chez les équipementiers et notamment chez les équipementiers allemands. Le ferro continue à croître, 5-6%. L'aérospace est toujours en progression de plus de 26% et ralentit à peine. Dans l'aéronautique civile, l'activité est aussi dynamique chez les constructeurs que chez les équipementiers. Les activités de défense, sécurité et navale accélèrent leur progression à plus de 30%, la croissance year to date atteignant maintenant 27%. Les secteurs défense et sécurité progressent, eux, de plus de 30%. L'énergie, 7,4% du chiffre d'affaires, est en recul de plus de 8% en raison des activités oil and gas qui représentent 2,2 du CA et sont en repli de 35%. Des fins de projet importants en Afrique, aux US et dans le Golfe, ainsi que le retrait de la Russie au second semestre 2022, ont fortement pesé sur l'activité. Et pour être honnête, nous n'avons pour l'instant pas d'indication d'inflexion de tendance. Les autres sous-secteurs, nucléaire, équipement pour l'énergie et chimie, progressent de 13%. Les sciences de la vie sont en croissance de 6%, de façon homogène entre la pharmacie et les équipements médicaux. Le secteur des équipements industriels, de l'électronique et des semi-conducteurs croît de 12% de façon homogène, même si le secteur électronique et semi a ralenti sur Q3 de façon assez générale sur toutes les géographies. Les télécoms sont stables en données cumulées, mais en légère décroissance sur Q3. Les opérateurs continuent à croître alors que les équipementiers accentuent leur recul du fait de la fin de nombreux projets dans la 5G. Le secteur finance a accentué son ralentissement au troisième trimestre, mais quasi exclusivement du fait des activités en France et dans une moindre mesure au Canada. Le secteur du retail, services et secteur public a ralenti également de façon hétérogène selon les secteurs et les géographies. En synthèse, à l'exception de l'oil and gas qui représente 2,2 du CA et des télécoms qui représentent 5,4 du CA, tous les secteurs continuent à progresser, tant au year to date que sur le troisième trimestre, même si le rythme de croissance décélère. Certains verticaux sont affectés uniquement dans certaines géographies, je pense par exemple à l'auto et à la banque. D'autres résistent bien et de façon homogène, comme l'aéronautique civile ou la défense et sécurité, par exemple. Notre politique de croissance externe s'est poursuivie au troisième trimestre. Nous avions annoncé une acquisition le mois dernier au moment de la publication des résultats semestriels au Japon. Nous devrions normalement terminer cette acquisition dans les jours qui viennent, puisque nous attendions la clairance des autorités locales. D'autres sociétés sont en process de due deal et il est probable que nous en annoncerons d'autres d'ici la fin de l'année. Voilà, donc pour 2023, donc comme nous l'avions anticipé, l'activité est restée satisfaisante, même si la croissance a ralenti trimestre après trimestre, ce que vous confirmera aussi le dernier trimestre de l'année. Ce dernier trimestre qui tiendra compte d'un effet de comparaison défavorable, puisque l'année dernière avait été particulièrement forte au deuxième semestre, qui tiendra compte également d'un demi-jour ouvré de moins et d'une macroéconomie qui est plus molle. Aussi, Alten s'attend dorénavant à réaliser une croissance organique d'environ 9% en 2023, une croissance satisfaisante dans l'environnement actuel. Voilà, bah écoutez, si vous le souhaitez, l'opératrice peut ouvrir la conférence et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, qui sont cette fois-ci orales, enfin, je le précise, puisque la dernière fois, lors de la publication des résultats, nous avions organisé une conférence avec des questions écrites. Je crois que tout le monde a plébiscité le retour à l'échange oral.
Bien, nous avons une question de Monsieur Grégory Ramirez.
Oui, bonsoir Bruno.
Bonsoir Grégory.
Oui. Donc, compte tenu de la croissance qui est quand même enfin la guidance de croissance organique pour l'année qui est légèrement inférieure au discours de septembre, est-ce que on peut considérer que le scénario de marge du S2 qui avait été évoqué à ce moment-là, disons, risque d'être un petit peu plus difficile à atteindre, peut-être quelques petits points enfin des points de base de marge en moins.
Est-ce que tu peux me rappeler le scénario de marge qu'on avait évoqué à ce moment-là?
Alors, il faut que je retrouve ce qui avait été dit. Un retrait de 0,5 à 1 point par rapport au S2 2022.
Donc, si on fait un point de moins, je crois que l'année dernière, on était à 18, c'est ça, au S2.
Très bien.
Ouais. Donc, ça ferait 9, 8. Oui, on sera en deçà, en dessous de 1 point de retrait. En fait, je vais vous donner les éléments de réflexion, comme ça on en aura fini sur la marge. Il y a comme au S1 l'incidence des acquisitions qui jouera un peu moins parce qu'on avait consolidé méthode, même si les résultats se sont pas améliorés, loin s'en faut, et qu'on a d'autres sociétés qui ont rejoint le périmètre avec des marges négatives ou à zéro. Donc on aura une incidence comme au premier semestre du MNE. Bon, ça, ok. On a, je voulais indiquer un jour ouvré de moins, un jour virgule cinq de moins ce semestre, puisqu'on n'en avait pas au premier semestre, mais ça joue sur le second semestre exclusivement, et un point de taux d'activité en moins. Donc ça va forcément aussi avoir un effet mécanique sur la marge. Le taux d'activité, si je puis dire, ce sera récurrent sur les années suivantes, parce que 92%, c'est notre target de pilotage du taux d'activité, puisque maintenant on fait majoritairement du work package et donc tout le monde converge vers un taux moyen de 92. Le taux de 93 qu'on a eu l'an passé était exceptionnellement élevé. En revanche, le calendrier, bon, bah, c'est le calendrier, hein, ça on n'y peut rien. S'il s'améliore en 2024, ça jouera dans l'autre sens. Voilà, et ensuite, comme vous le savez, puisque je vous avais expliqué ça le mois dernier, on a renforcé les structures de direction technique du fait du renforcement des activités Work Package, donc plusieurs géographies, mais notamment US-Allemagne. Et on avait eu au premier semestre un effet sur les SG&A qui était de 90 bips. L'effet sera pas aussi fort au S2, hein, et ça jouera moins, beaucoup moins, mais ça continuera à jouer aussi. Donc, enfin bon, je n'ai pas la marge du S2, hein, parce que, on est qu'au mois d'octobre, mais mécaniquement, quand on fait la liste de tous les sujets qui concernent les évolutions de marge, on sera forcément sous les 9-8 au S2, ça c'est sûr.
D'accord.
Indépendamment du fait, comme tu l'as fait remarquer, que même si on a une base de coûts fixes qui est relativement faible, le fait d'avoir moins de chiffre d'affaires qu'attendu aura forcément une incidence sur le volume de marge dégagé. Mais je dirais, on avait donné une guidance entre 9 et 10. On est sur la fourchette basse de la guidance. Est-ce que les métiers ont été prudents ou est-ce que c'est objectif? On verra bien ce que ça va donner, mais par prudence, ce qui est sûr, c'est que les 10, on les fera pas. Ça, maintenant, c'est une certitude de croissance organique. Aux environs 9, oui, ça, on est assez confiant pour les faire. Donc, par rapport à la guidance précédente, c'est vrai que on est plutôt sur la fourchette basse, mais c'est pas ça qui fait que la marge va descendre de façon significative entre l'an dernier et cette année. L'incidence, les incidences sur la marge sont liées à tous les effets que je viens de te décrire, hein, et qui, eux, mécaniquement, ont un effet sur la marge. Ouais.
D'accord. Et concernant en fait les recrutements, donc le faible niveau de recrutement net, est-ce que c'est lié en fait, c'est une décision volontaire, j'allais dire, des BU face au ralentissement qui constatait des commandes, ou est-ce que c'est lié à d'autres éléments un peu plus involontaires?
Non,
Notamment
c'est.
les démissions de l'été, fin juillet-août.
En fait, on a eu pas mal de démissions. On a eu des démissions fin juin, comme d'habitude. Et en fait, il y a eu pas mal de départs en juillet et août aussi. Ce qui fait qu'effectivement, on a eu un taux de départ plus important qu'à l'habitude. En tout cas, que ces dernières années. Qu'on a recompensé, évidemment, par les recrutements sur septembre, et les recrutements d'octobre ne sont pas mauvais. Hein. Enfin, on n'a pas fini le mois, mais j'ai les chiffres à la fin de la semaine dernière. C'est sûr que le Q4 23 sera pas équivalent au Q4 22 en recrutement, ça c'est sûr. Mais la dynamique de recrutement est bien partie sur octobre. Maintenant, si on avait plus recruté sur Q3, je ne suis pas capable de dire quelle aurait été l'incidence sur la croissance et quelle aurait été l'incidence sur le taux d'activité. Parce qu'on a un taux d'activité qui est quand même resté à 91, 7 ou 8, bon, qui est dans les purs. Ce qui veut dire que tous les recrutements additionnels que l'on aurait pu faire, ben, certains auraient été en intercontrat, hein, mécaniquement. Puis d'autres auraient peut-être permis de booster un peu plus la croissance. Mais ce split, on est dans la capacité de le donner. Parce qu'en fait, on ne le connaît pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les BU ajustent d'elles-mêmes leur dynamique de recrutement. Parce qu'elles pilotent un taux d'intercontrat et en fonction des projets, bah, elles ajustent les ressources, tenant compte bah, des fins de projet, donc des ingénieurs qui deviennent disponibles, et puis des besoins additionnels qu'elles ont pour faire face à la croissance.
Merci beaucoup.
Bien, nous avons à présent une question de Monsieur Laurent Dor.
Oui, merci. Bonsoir Bruno.
Saint-Laurent.
En fait, je sais que c'est tôt, mais j'aurais souhaité que tu évoques un peu 2024. Parce qu'en
Ouais, ça,
fait,
ça c'est
là.
sûr, c'est tout.
Oui. Mais bon, tu as quand même une croissance embarquée qui, pour le début d'année, qui s'étiole avec un
D'accord.
séquentiel qui s'affaiblit. On a quand même une partie du marché qui a des attentes organiques qui me paraissent élevées. Aujourd'hui, première question, est-ce que tu vois un risque éventuel d'avoir un chiffre d'affaires en retrait? Est-ce que tu as des verticaux sur lesquels des clients devraient porter des messages prudents pour l'année prochaine? Et est-ce que aujourd'hui, je peux considérer qu'un scénario ambitieux, ce serait plutôt d'aller chercher une croissance organique à 4-5%? Après, j'ai un follow-up.
C'est vraiment tôt pour répondre. Alors, ce qui est sûr, c'est que la dynamique de croissance s'étiolant, l'embarqué, il sera plus faible qu'il ne l'a été. Ça, c'est quasiment une la palissade, hein. Maintenant, en organique, cette année, disons qu'on va rajouter à peu près peut-être 3 000 ingénieurs, un peu plus. 3002. Enfin bon, on verra bien comment on termine l'année. Donc ça va générer une croissance embarquée pour 2024, quoi qu'il arrive. Obligatoirement. Mais c'est sûr qu'elle sera beaucoup plus faible que celle de l'an passé, puisque celle de l'an passé, on avait ajouté 6600 personnes en organique. Donc on sera deux fois plus faible en croissance embarquée que l'année dernière. Étant entendu qu'en plus, je ne les ai pas modélisés encore, mais il y a des effets de mix, parce qu'il y a une partie de la croissance de cette année qui s'est faite sur l'international et sur des zones qui ne sont pas nécessairement un chiffre d'affaires par tête très élevé, puisqu'on a quand même pas mal développé l'EDC Maroc, l'Inde, etc., pour adresser certains marchés européens. Donc peut-être une première indication, mais vraiment très préliminaire, c'est de dire, faut considérer la croissance organique, la croissance embarquée de l'an passé, je ne sais plus combien elle était, et la diviser par deux. C'est assez rough, bon, voilà, en prenant peut-être un buffer de sécurité, et puis ensuite, faudra rajouter la croissance de 2024. Quand je regarde l'Allemagne, par exemple, parce que l'Allemagne, on a un chiffre d'affaires par tête qui est important et que c'est là quand même où ça coince assez fort chez les équipementiers auto. Le discours, j'étais en Allemagne début de cette semaine-là, le discours des patrons locaux est de dire les équipementiers ne renouvellent pas les projets, c'est-à-dire ceux qui s'arrêtent, ils n'ont plus de budget, donc ils n'en relancent pas de nouveaux. Ils nous demandent de maintenir les gens parce que les budgets vont être redébloqués début d'année prochaine. Et donc, ils s'attendent à un redémarrage de l'activité, plus exactement à une reprise de la croissance, à compter du Q2 2024. Bon. C'est un discours que j'ai entendu chez des concurrents aussi sur l'automobile. Ce qui ne veut pas dire que ce sera la réalité, mais ça veut dire en tout cas que c'est un discours qui est homogène et cohérent, et c'est bien le message qui est porté. Donc, si on admet que ça repart en Allemagne à partir de Q2 24, ce sera probablement le cas ailleurs. Je ne sais pas combien de temps va durer la crise dans la partie banque en France. Enfin, il n'y a pas que la banque en France sur le marché. Donc, notre scénario aujourd'hui, c'est une croissance embarquée faible, plus une petite croissance additionnelle en 2024. Après, je ne sais pas dire combien ça fait, si ça fait 4 ou 5, ou si ça fait moins. J'espère quand même qu'on fera une croissance au moins de cet ordre-là. Mais avant d'avoir la photo de départ, c'est-à-dire la situation début janvier, tant en effectif qu'en projet et en taux d'activité, c'est compliqué de faire des projections dans notre métier.
Ok, alors la question qui suit, c'est sur la rentabilité. Il y a une ambition de retourner 10 l'année prochaine. Et le point de départ est un peu plus bas, sans doute 25 bips, 30 bips par rapport à ce qu'on anticipait. Est-ce que ça remet en cause ou ça rend plus compliqué le retour à 10, ou finalement c'est des éléments un peu one shot et la marge structurelle elle bouge pas vraiment?
Non, pour nous, la marge structurelle, elle ne bouge pas vraiment. On est en train de prendre un certain nombre de mesures en ce moment pour piloter les coûts en conséquence. On est en train de faire un plan, par exemple, je ne sais pas trop si je peux le dire, parce que je ne sais pas si elle a été annoncée, mais dans un pays européen, qui ne sera pas très grand, mais pour s'ajuster justement au début d'année. Donc, on va prendre les mesures qu'il faut pour ajuster, comme vous dites, la base de coûts, à l'activité.
Et alors, très bien, c'est clair. Et la dernière question. Donc là, on sent chez tout le monde que ça se dégrade depuis quelques semaines. Est-ce que tu as constaté qu'il y avait plus de sociétés qui se mettaient en vente et tu commences à avoir plus d'opportunités sur de la croissance externe?
Pas vraiment. Il y a des
C'est trop
dossiers
tôt?
qui, il y a, ben, il y a des dossiers qui tournent, c'est toujours les mêmes. Là, il y a une société qui vient d'arriver sur le marché, qui est intéressante en Allemagne, et que je suis allé voir cette semaine. les multiples vont pas baisser. Et je dirais, et on, bon, celle-là, de toute façon, ça faisait 3 ans qu'ils étaient actionnaires. Donc, en plus, le timing est le bon pour vendre, parce que, enfin, c'est peut-être même un peu tard, parce que la courbe d'inflexion vient de passer en Allemagne, elle est passée au premier semestre. Mais on ne voit pas pour l'instant, on va dire, d'ajustement du marché du M&A. C'est-à-dire, on ne voit pas de baisse de multiples et on ne voit pas arriver plus de dossiers qu'on envoyait avant.
Mais qu'il n'y ait pas de baisse de multiples, c'est une chose. Et est-ce qu'il y a toujours des transactions? Finalement, est-ce qu'il y a encore des acheteurs prêts à payer des multiples délirants? Parce que s'il n'y en a plus, au bout d'un moment, ça va s'ajuster.
Alors ça, c'est sûr. Soit ça va s'ajuster, soit les fonds vont retirer les boîtes du marché jusqu'à ce que la courbe de développement quoi, croise celle du prix. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que quand il y a des process structurés, il y a toujours des fonds et des industriels, des stratégiques sur les dossiers.
Ok, super. Merci Bruno. Bonne soirée.
Je t'en prie, Laurent, bonne soirée.
Nous avons maintenant une question de Monsieur Diego Esteban.
Bonjour, bonsoir. C'est Diego Esteban de Stifel Europe. Merci de prendre ma question. Quel effet devrait prendre en compte pour le quatrième trimestre? Merci. Quel effet périmètre? Pourrais-tu préciser ta question, Diego? Est-ce que nous allons consolider davantage au sein du périmètre Alten, c'est cela que vous voulez dire? Oui, tout à fait, ce serait super. Oui, eh bien nous allons consolider deux sociétés que nous avons achetées, l'une en Pologne, et nous nous attendons à ce que le chiffre d'affaires à 4,5 millions d'euros. Et nous allons également consolider une société que nous avons achetée aux États-Unis au cours du premier semestre. Et pour ce trimestre, un chiffre d'affaires devrait être à hauteur entre 2,5 et 3 millions d'euros. C'est-à-dire que ce n'aura pas de véritable impact sur le chiffre d'affaires annuel.
Ok, il a dit merci beaucoup. Je vais attendre la question de Monsieur Marcon. Peut-être qu'il va essayer de de la poser par téléphone cette fois-ci.
Alors, trois questions. La première, c'est sur l'automobile, qui fait quand même, comme tu le soulignais, une bonne performance. Alors, je ne sais pas si le 15% c'est sur 9 mois ou sur le Q3, et ce, malgré l'Allemagne. Donc, est-ce que tu pourrais nous faire un peu un tour d'horizon, en fait, de ce que tu vois dans ce secteur? Parce que d'un côté, tu as un discours quand même assez alarmiste sur le fait que les équipementiers baissent leur budget, ou en tout cas font des furloughs, mettent en pause certains projets, et qu'effectivement la situation en Allemagne elle est difficile, mais de l'autre côté, le chiffre agrégé, si on fait top-down, il est plutôt bon. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est sur la dynamique de France, dynamique en France, pardon, qui reste quand même assez forte. Alors, on comprend bien peut-être que ça ne va pas rester à ce même niveau-là, vu les net staffing du Q3, mais de l'autre côté, ça reste une performance quand même très bonne. Tu n'as pas l'air de mentionner d'éléments négatifs ou de verticaux négatifs qui tireraient la tendance vers le bas. Donc, est-ce que c'est une tendance qui peut perdurer? Et si je reprends la question de Laurent, faire 4-5% de croissance avec une France qui fait un tiers de ton chiffre d'affaires au-dessus de 5%, ça veut dire qu'en gros, tu vois un international qui serait en dessous de la croissance moyenne du groupe. Et ma troisième question, c'est sur si tu peux revenir sur donc les zones de faiblesse qui ont été plus fortes que ce que tu avais anticipé au Q3 et qui fait que tu termines le Q3 dans l'estimation basse. À tes commentaires, j'ai pu comprendre que c'était Allemagne-USA. Ce n'est pas le cas.
Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Concernant l'automobile, en fait, il n'y a pas de tendance générale dans l'auto, et tous les équipementiers ne sont pas concernés par les arrêts de projet ou en tout cas la réduction des budgets. Alors, l'auto, les 15% de croissance organique, c'est en year to date, juste pour préciser quand même. Et sur Q3, uniquement Q3, on a fait 9,5%. Ce qui reste des chiffres très satisfaisants. Même si on s'est habitué à des taux de croissance élevés, ça reste très satisfaisant. Alors, dans l'automobile, où sont les sujets aujourd'hui? Équipementier allemand, ça c'est sûr, mais pas les constructeurs. Alors, pourquoi? Je ne sais pas répondre, mais c'est clair que les équipementiers, y a des, les projets s'arrêtent et puis ils reprendront l'an prochain pour les nouveaux projets. La Suède, là c'est chez un constructeur, hein, puisque c'est Volvo Cars. On a, pareil qu'en Allemagne, des projets qui s'arrêtent, des budgets qui ne reviennent pas et qui seront redébloqués en 2024. Bon. Est-ce que c'est parce que les directions techniques et R&D ont consommé tout leur budget, ils les ont anticipés et puis derrière, compte tenu du contexte, leur direction a décidé de pas rallonger, je peux pas dire. Mais le fait est, c'est que les portefeuilles de projets sont fournis, ils sont garnis. Il y a les sujets de transition qui boostent tout le monde, mais le fait est, c'est que conjoncturellement, on est dans cette situation. Les US, c'est aussi chez les constructeurs où on a une baisse de l'activité. Enfin, pas une baisse de l'activité. Enfin, attention à ce qu'on dit. On a une moindre croissance de l'activité, mais les budgets n'ont pas réduit. Et voilà, sur l'auto, globalement, voilà les zones où aujourd'hui il y a des sujets. Alors, en France, ça marche très bien. Chez les autres, chez les constructeurs US, à l'exception Stellantis, ça continue. Alors, j'aurais dû préciser à l'exception de Stellantis. Voilà. En Italie, ça fonctionne bien, en Allemagne, en Espagne aussi. Voilà, on n'est pas face à une crise dans l'automobile. Hein. On est face à un ralentissement fort chez certains clients. Ça, c'est pour l'auto. La France continue à bien performer. Pourquoi? Parce que on a le secteur défense qui est en croissance assez forte et on est fort dans la croissance en France. Ça fait partie des métiers historiques. Et on a une accélération des marchés dans la défense. Bon, ça va pas surprendre, hein. L'aéro résiste bien pour l'instant. Ça décélère, mais ça n'a pas décéléré dans des proportions considérables. Donc ça reste bien orienté. Et l'automobile en France, ben, que ce soit équipementier ou constructeur, ça résiste bien en sachant que la dynamique de croissance est plus forte chez les constructeurs aussi. Alors en France, hein, j'en ai pas parlé parce que vous le savez, mais Simon on a beaucoup évoqué lors de la réunion analyste. On a deux secteurs qui sont difficiles. La banque en France, où aujourd'hui on est en haut de la crête, on va pas tarder à faire de la décroissance, puisque la croissance forcément s'est complètement interrompue, et les télécoms qui sont dans la même situation. Donc ça va obérer la croissance probablement un peu du Q4 en France par rapport au taux de croissance du Q3, et puis on verra ce qui se passera en 2024, mais tous les secteurs sont pas...
Jordan?
Allô? Tous les secteurs sont pas orientés à la hausse en France. Maintenant, les trois secteurs que je vous ai cités, défense, auto, aéro, ça fait plus de 50% du chiffre d'affaires France. Alors que Telco plus Banque Finance, ça fait 15%. L'an prochain, Alors, quelles sont les zones de faiblesse? J'ai répondu à une partie de la question en évoquant l'auto, les télécoms de façon générale. Sur Q3, c'est en décroissance et ça sera aussi en décroissance sur Q4 et c'est à peu près, à l'exception de l'Europe du Sud, c'est à peu près homogène partout. La banque finance, à l'exception de la France, on a aussi un ralentissement de l'activité aux US et au Canada, enfin en Amérique du Nord. L'énergie, l'oil and gas n'en finit pas de dégringoler. La logique voudrait qu'à un moment donné, il y ait des investissements qui reprennent, hein, puisque sinon les prix du pétrole vont continuer à augmenter, mais on ne voit rien venir. J'écoutais M. Pouyanné il n'y a pas longtemps m'expliquer qu'effectivement, à un moment donné, si on ne voulait pas créer un nouveau choc pétrolier, il allait falloir reprendre les investissements. Donc, voilà. Probablement que ça finira par arriver, mais pour l'instant, ce n'est pas dans les tuyaux, enfin, en tout cas, ce n'est pas dans nos appels d'offres. Voilà, les sciences de la vie, c'est un secteur qui a redémarré, qui avait ralenti, puis là, qui semble redémarrer. Voilà. Donc, zone de difficulté, comme je vous l'ai dit, auto, banque finance, télécom, essentiellement, et encore pas de façon homogène. Après, les taux de croissance du Q3, même dans les secteurs qui vont bien, sont plus les taux de croissance de l'année dernière. Donc, tendanciellement, ce qui est vrai, c'est que la croissance, comme l'expliquait Laurent, c'est que la croissance séquentielle est en train de ralentir. Il y a des plus et il y a des moins, et on va forcément démarrer l'année avec un embarqué qui sera plus faible que celui de l'année dernière. Maintenant, aujourd'hui, je fais pas de projection sur 2024 parce que je suis incapable d'en faire. Je vous ai donné un certain nombre d'éléments de réflexion qui sont ceux qu'on a, mais je peux pas vous dire ce sera 4, ce sera 6, ce sera 3. En fait, on n'en sait rien.
Une dernière question, juste pour moi, Bono, pour comprendre le momentum, parce que finalement, comme tu le disais, c'était le terrain va piloter les recrutements en fonction de la demande ou de ce que pense pouvoir faire. Et tu mentionnais que finalement, les recrutements sur octobre étaient plutôt dynamiques. Si on essaie de comparer la dynamique que tu vois début octobre versus ce que tu as vu en Q3 ou sur septembre, est-ce qu'il y a une vraie différence? Est-ce que c'est un momentum positif? Est-ce que c'est ce que tu qualifies comme dynamique, c'est ce qui te permet de faire un peu de croissance sur une croissance autour de 4-5%? J'essaie juste de comprendre ce que tu appelles un mois d'octobre dynamique.
Non, je dis sur le mois d'octobre dynamique, j'ai dit qu'on ne refera pas un Q4 comme l'an dernier. On avait recruté de mémoire 1200 personnes sur Q4.
Non, mais entre 30 et 1000, j'entends bien, mais entre 30 et 1000, il y a de la marge.
C'est pas sûr. Octobre, on va avoir des recrutements nets, je pense, de l'ordre de 350 personnes. Voilà, pour vous donner une idée du chiffre. Maintenant, octobre, c'est un mois où on recrute en général beaucoup, parce que fin septembre, octobre, c'est les mois où on recrute les débutants. C'est pas anormal d'avoir un recrutement de cette amplitude sur octobre. Mais ça ne s'accompagne pas d'une hausse du taux d'intercontrat. Décembre, en
Du coup.
recrutement, c'est jamais un mois très élevé. Voilà, donc je ne peux pas tirer le trait parce que on ne peut pas dire si on fait 350 en octobre, on fait x3 ou on fait x2, etc. Parce que comme en plus on est dans un contexte où le pilotage se fait vraiment à la semaine, pour des questions évidentes de maîtrise de l'intercontrat, je ne sais pas où on va atterrir en fin d'année en termes de recrutement net. Mais bon, voilà, octobre, c'est plutôt un bon mois. Je ne
Beaucoup,
sais pas
Bruno.
si, je sais pas si ça t'est clair, mais.
Toujours, toujours.
Bonsoir, Bruno. Vous m'entendez?
Oui.
Oui, en fait, j'étais parce que je suis connecté bizarrement enfin, sur le nom de Cécile, c'est Nicolas David chez Odo. J'avais une question, mais voilà. J'avais juste deux questions rapidement de mon côté. La première, c'est sur l'Allemagne. Effectivement, tu as souligné que auto-aéro, c'était genre 70% du chiffre d'affaires. Est-ce qu'il n'y a pas une ambition, alors je ne parle pas de forcément très court terme, mais d'accélérer la diversification? C'est quand même un secteur qui industriellement est très fort au-delà de ces deux secteurs, avec des gros secteurs comme la chimie, les équipements industriels. Est-ce qu'il y a une capacité potentiellement à activer une diversification ici pour avoir des relais de croissance, et si oui, sous combien de temps? Ma deuxième question, c'était, je me souviens que les deux secteurs qui ont ralenti le plus tôt dans le cycle, c'était oil and gas et banque finance. Est-ce que tu peux nous rappeler quand est-ce que ça avait ralenti, et est-ce qu'on peut espérer quand même, de ce point de vue-là, sur les year-on-year, sur ces deux secteurs, moins d'impact, ou alors on est quand même toujours en fait, dans la pente basse de la courbe en V, en fait, et que finalement le year-on-year ne peut pas s'améliorer à ce stade?
Pour répondre à la question sur l'Allemagne, oui, bien sûr, on essaye de diversifier tout ce qui est auto-aéro. Alors, juste pour rappel quand même, auto-aéro aujourd'hui, ça fait 67% exactement du CA accumulé. Ça représentait plus de 80% il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps. Bon. Pourquoi? Parce que les secteurs qui externalisent le plus leur R&D en Allemagne sont ces deux-là. D'ailleurs, de façon générale dans le monde, sauf que les autres secteurs externalisent aussi, alors qu'en Allemagne, les autres secteurs externalisent vraiment beaucoup moins. Alors, il y a des secteurs où on a quand même engagé des diversifications, l'électronique notamment en Allemagne, les télécoms, l'énergie. Bon, voilà. Alors, pour l'instant, c'est des secteurs qui sont tous, toute la partie retail et services, qui sont les autres à 5 ou un peu en dessous de 5, mais ils sont plus anecdotiques. Le seul secteur qui est très faible en Allemagne pour nous, c'est la partie banque-finance. On n'est vraiment pas présent ou très très peu présent. Voilà. Tous les autres secteurs montent progressivement de quelques points chaque année, ce qui explique qu'aujourd'hui les 80 soient 67. Bon, mais ça reste évidemment fortement majoritaire. Il y a des actions entreprises pour évidemment de prospection dans les autres secteurs et chez d'autres clients. Comme toujours dans nos métiers, ça prend du temps. Ensuite, pour répondre à la question sur l'oil and gas et la banque finance, en fait, on est sur des secteurs qui ont des dynamiques qui ne sont pas les mêmes. L'oil and gas, ça représentait 9% du chiffre d'affaires en 2014 ou 15, qui était le plus haut, je crois. Et à partir de ce moment-là, 2015, ça n'a pas arrêté de baisser. On a toujours pensé que ça allait finir par s'arrêter de baisser. Et en fait, ça continue à baisser d'année en année. À tel point que je ne me risquerais plus aujourd'hui à dire. On pense que ça va finir par rebondir parce que c'est pas le cas. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres projets qui viennent en substitution dans les énergies renouvelables, mais c'est très loin de compenser les projets qui ont disparu dans le monde de l'oil and gas. C'est une tendance de fond qui va trouver sa limite, qui va buter sur les besoins quand même en énergie fossile, même si il y a une volonté de transition. Je sais que Total avait des projets qu'ils ont suspendus. Bon, voilà. Compte tenu de la dynamique de décroissance, ça va continuer à décroître l'année prochaine, hein, parce que là, pour le coup, on a une vraie décroissance embarquée. La banque finance, c'est un autre sujet. Ça a commencé à décroître beaucoup plus, bah, là, cette année, hein, on a vu les prémices, en fait, de la décélération au Q2 2023. Les annonces ont été faites officiellement dans le secteur bancaire en France à la rentrée. Bon. Et là, on voit vraiment clairement l'activité se contracter. On n'est pas encore en négatif, sauf en France, mais on va passer en zone négative, je pense, en 2024 dans la banque finance en France, peut-être aux US. Je pense pas au Canada quand même. Ça a décéléré, mais on n'en est pas rendu là. Voilà. Globalement, sur le vertical en lui-même, enfin, ça ne décroît pas dans tous les pays, hein, parce que je vous ai donné les chiffres. Banque finance, on est encore à 2,5% de croissance sur Q3 en year on year, Et en year to date, on est à un peu plus de 5. Donc, voilà. Je ne pense pas qu'on ait atteint le fond. Et je pense que, il faudra attendre mi-2024 avant d'avoir un éventuel rebond, je pense, dans ce secteur d'activité au mieux.
Bah, merci beaucoup.
Nous avons une question de Monsieur Aditya Boudavarapu. Nous avons une question de Monsieur Aditya Boudavarapu.
Merci de prendre ma question. Je voulais savoir s'il y avait eu des changements en ce qui concerne la concurrence dans les marchés principaux. Deuxième question, est-ce que vous parlez des tendances des prix et la corrélation avec les consommateurs? En ce qui concerne la concurrence et le contexte de la concurrence, il n'y a eu aucun changement. Il n'y a rien qui s'est passé depuis l'année dernière et on ne pense pas voir des changements l'année prochaine. En ce qui concerne les prix, on a bien évidemment de la difficulté, on a eu de la difficulté à monter les prix en 2023. On a réussi auprès de quelques clients. Mais forcément, il existe des difficultés avec les clients. La plupart des augmentations ont été demandées qu'en H2. Donc, certains clients ont vu des changements en cours de H1. Comme vous savez, nous sommes en cours de négociation des tarifs pour Q1. On a eu beaucoup de difficultés avec certains clients. Donc, les discussions pendant Q2 étaient très longues et difficiles. Mais je dirais que nous avons une nouvelle base de clients et des nouveaux prix pour H2. Ça veut dire que les marges en H2 si on pense seulement au salaire et à l'antériorité, il existe une meilleure situation qu'en H1. Et donc il est difficile de parler de manière générale. On doit avancer un client à la fois et négocier avec chaque client. Et donc, les prix sont les prix. On fait une offre pour un package de travail, mais étant donné qu'il existe une base de salaire, il faudra faire avec. Avec les prix, comme la concurrence. Donc, en février, je vais pouvoir parler de l'impact des salaires pour l'année 2023. Ainsi, l'impact courant H1 qui sera moins marqué en H2. Je vous remercie pour votre réponse.
Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie d'avoir participé à notre conférence téléphonique. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous rappelle que notre prochain rendez-vous est fixé fin janvier. Ça concernera donc le chiffre d'affaires de l'année 2023. Bonne soirée et à bientôt.